On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Et rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. 12 jours, le compte à rebours est lancé, tout à son obsession désormais de convaincre l'opinion qu'il a fait le bon choix. François Bayrou aura notamment l'occasion de s'expliquer ce soir à 20h à la télévision. En attendant, ce matin avait lieu le premier conseil des ministres de la rentrée, forcément un peu bousculé par l'audace du Premier ministre. Et dans ce contexte, on s'interrogera sur la stratégie du Rassemblement National, en particulier dans la perspective d'une nouvelle dissolution. Avec notre invité aujourd'hui, on parlera urgence pour les associations féministes et puis l'actualité également à l'étranger. On se rendra tout d'abord en Allemagne où le gouvernement prévoit un retour partiel à un service militaire volontaire. Enfin, on s'intéressera à un nouvel espoir en Europe dans la prévention du VIH. Depuis que de son Himalaya, François Bayrou a choisi de sauter dans le vide, tout le monde continue de s'interroger sur la stratégie d'un geste aussi radical. Alors sans doute qu'en misant sur un vote de confiance, le Premier ministre n'avait pas imaginé susciter une telle levée de bouclier, qui plus est dans un rare moment d'unité parmi toutes les forces d'opposition, depuis la gauche jusqu'à l'extrême droite de l'échiquier politique. Toujours est-il que si la rentrée s'annonçait déjà compliquée pour l'exécutif, à présent c'est le pays tout entier qui retient son souffle face à l'abîme, et ce même si, au fond, les prochaines semaines risque fort de ressembler à toutes celles en réalité qui depuis l'été 2024 nourrissent cette crise politique permanente, plus exactement depuis qu'un certain Emmanuel Macron a décidé seul de dissoudre l'Assemblée nationale pour réagir à sa défaite aux élections européennes. Alors le chef de l'État, justement de retour de villégiature, a retrouvé ce matin le gouvernement pour le traditionnel conseil des ministres de rentrée post-trêve estivale dans une atmosphère particulière. Emmanuel Macron qui a apporté son total soutien à la démarche de François Bayrou tout en précisant qu'il n'y avait ni déni de réalité ni surexagération de l'état financier du pays. Alors dans cet imbroglio politico-institutionnel, il en est une qui espère malgré tout voir un rayon de lumière finir par percée au milieu du brouillard, c'est Marine Le Pen. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Aussitôt après que François Bayrou a annoncé vouloir engager la responsabilité de son gouvernement, le 8 septembre prochain, le Rassemblement National a prévenu qu'il voterait contre, mais pas seulement. Le parti d'extrême droite en appelle à une nouvelle dissolution de l'Assemblée. Or, l'organisation, le cas échéant d'élections législatives anticipées, permettrait en effet à Marine Le Pen d'accélérer sa requête pour tenter de faire suspendre son inéligibilité immédiate.
Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles Marine Le Pen réclame une nouvelle dissolution qui déclencherait de nouvelles législative anticipée. Elle veut contraindre le Conseil constitutionnel à se prononcer sur l'exécution provisoire de sa peine d'inéligibilité. Car on ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel si facilement que ça en déposant une QPC sur laquelle il se prononce. Il faut une circonstance et un vecteur. Autrement dit, il faut qu'un problème juridique se pose, et c'est à partir de ce problème juridique qu'on peut déposer une QPC, question prioritaire de constitutionnalité, devant non pas le Conseil constitutionnel, mais la Cour de cassation ou bien le Conseil d'État. Et si l'une de ces deux juridictions considère que la question est pertinente et qu'elle n'a pas encore été tranchée, elle le transmet alors au Conseil constitutionnel qui doit y répondre. Et donc, en cas de nouvelle dissolution et de nouvelles élections, Marine Le Pen se présenterait dans sa circonscription, la 11e du Pas-de-Calais. Cette candidature serait refusée par le préfet, par le tribunal administratif et par le Conseil d'État, au motif qu'elle n'a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité en mars dernier avec exécution provisoire. Mais la patronne du Rassemblement National tiendrait alors sa circonstance, son occasion juridique pour déposer une question prioritaire de constitutionnalité sur le droit de se présenter à cette élection. Les avocats de Marine Le Pen ont beaucoup travaillé la question depuis le printemps dernier. Ils estiment que deux décisions du Conseil constitutionnel vont dans le sens de leur cliente, l'une rendue en 2002, l'autre en 2025. L'une porte sur le fait qu'un député ne perd pas son mandat en cas d'inéligibilité, car il est détenteur d'une part de la souveraineté nationale. L'autre porte sur la liberté de l'électeur de confier à qui il le souhaite la part de souveraineté qu'il détient via l'élection. Et les avocats de Marine Le Pen considèrent que ces deux décisions invalident en droit l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité. Si le Conseil constitutionnel allait dans leur sens et corroborait cette analyse, Marine Le Pen serait libérée de l'exécution provisoire de son inéligibilité et pourrait se présenter à la fois aux législatives anticipées mais aussi à la présidentielle en 2027.
Merci Stéphane Robert. Et puis s'agissant des prochaines échéances électorales actées, cette fois-ci la date des municipales a été officiellement rendue publique ce matin. Elles auront lieu les 15 et 22 mars.
Et c'est donc en plein milieu de ce vaste désordre politique qu'Elisabeth Borne tiendra aujourd'hui sa conférence de presse pour lancer l'année scolaire.
Oui, sa toute première rentrée comme ministre de l'Éducation et peut-être aussi déjà la dernière. Parmi les principales nouveautés, on citera notamment la généralisation progressive de l'interdiction du téléphone portable au collège, ainsi qu'une nouvelle épreuve de mathématiques en classe de première. Enfin, pour la deuxième année consécutive, cette fois-ci, c'est encore en pleine incertitude politique et budgétaire que le MEDEF ouvrira, lui, aujourd'hui, ses 7e rencontres des entrepreneurs. Alors, on aura compris combien cette rentrée couperet était plus que jamais placée sous le signe des coupes budgétaires, et c'est notamment le cas s'agissant des financements alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes. En l'occurrence, le budget dévolu aux associations est très loin aujourd'hui d'être proportionnel à l'explosion, par ailleurs, des plaintes. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par la Fondation des Femmes. Et pour en parler avec nous, invitée de la rédaction aujourd'hui, sa présidente Anne-Cécile Maillefert. Bonjour madame.
Bonjour.
Parmi les associations qui ont répondu donc à votre enquête, 71% d'entre elles déclarent que leur santé financière s'est effectivement dégradée entre 2024 et 2025. Elles accusent 15% de coupes budgétaires, soit environ 7 millions d'euros en moins. Direz-vous que cette baisse marque la fin de la période de soutien qui avait été initiée par le Grenelle sur ce sujet, c'était en 2019.
Oui, on ressent effectivement une sorte de relâchement, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même néanmoins une sorte de priorisation à la fois médiatique, et je vous remercie d'en parler, mais aussi politique. On sentait que c'était un sujet qu'on ne pouvait pas éviter. Et puis là, ces derniers mois, et en particulier depuis la dernière dissolution, on sent qu'il y a d'autres grandes priorités et que si c'est, et avec en plus l'élection de Donald Trump et toutes ces idées rétrogrades, on sent bien qu'en fait si on peut arrêter de trop en parler et de passer à autre chose, et le contexte de rigueur budgétaire évidemment traduit ça aussi. Et on a très peur, effectivement, pour les associations. Et les chiffres, là, qu'on sort sur cet été, sur ce qui se passe là en ce moment, nous inquiètent beaucoup. Oui.
Concrètement, comment ces coupes budgétaires se répercutent-elles dans le fonctionnement même des associations?
Alors, concrètement, on va avoir des associations qui, parce qu'elles ont des retards de versement de subventions, c'est pas forcément toujours des coupes, mais des retards. Et on parle de petites structures. Donc, en fait, malheureusement, elles ont plus d'argent. Donc, soit des retards de subventions, soit des baisses de subventions qui viennent principalement d'ailleurs des départements, ça va se traduire concrètement par un poste de juriste en moins, un poste de psychologue en moins. Alors elles vont réduire en premier lieu toutes les actions de sensibilisation en se disant bon c'est le moins urgent on va dire, mais bon malheureusement on sait que à long terme ça crée de gros problèmes. Et par exemple, vous donnez un chiffre plus précis, 72% des associations répondantes qui sont dans les territoires ruraux nous indiquent qu'elles doivent fermer ou réduire les horaires de permanence. Ça va être donc des femmes à qui on va fermer la porte alors qu'elles ont demandé de l'aide et des conseils.
Vous l'avez évoqué à l'instant, parmi les principales collectivités qui financent aujourd'hui les associations, ce sont les départements, des départements que proviennent donc la plus grande partie de ces coupes budgétaires. De fait, le contexte budgétaire exerce une contrainte particulièrement forte sur ces collectivités. Sauf que selon vous, ces coupes relèveraient d'abord et surtout d'un choix politique. Qu'est-ce que vous entendez par là?
En fait, c'est toujours le cas. Quand vous avez un contexte budgétaire qui est effectivement contraint, vous devez faire des choix. Et il s'avère qu'en l'occurrence, par exemple, le département de la Drôme a fait le choix de couper complètement tout soutien au centre de santé sexuelle et affective. Donc ce sont les 7 permanences, dont la plupart étaient en territoire très rural, très isolé, qui sont fermées. Donc on a aujourd'hui des femmes qui sont à 2h, 3h d'une permanence qui pourrait les informer sur leur santé et leurs droits. Et donc très concrètement, en plus avec les problématiques de déplacement, etc., elles vont sûrement pas y aller. Donc, alors que ces territoires, à nouveau, les territoires ruraux, les territoires isolés, c'est là qu'il y a plus de 50% des féminicides. Donc on est sur les endroits dans lesquels l'isolement est vraiment le problème principal et on les isole encore plus en leur fermant la porte. Ce sont des choix politiques parce que ce sont toujours des choix politiques. On pourrait se dire, on fait des réductions ailleurs et puis par contre, on sauve des vies. Donc sur les féminicides, ça reste une priorité, ça reste un combat de société. Il faut absolument qu'on continue à mettre l'accent là-dessus. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait.
Est-ce qu'il existe des différences peut-être entre départements? Et le cas échéant, est-ce que ces différences sont corrélées à la coloration politique des collectivités?
Il y a effectivement des collectivités qui continuent de s'engager. Il y a beaucoup de villes qui continuent effectivement. Et pour certaines d'entre elles, on peut voir cette corrélation. Oui, on a des villes qui continuent d'investir massivement sur ces sujets. Et on sait aussi que on entend cette petite musique qui nous vient des États-Unis. On voit aussi sur les réseaux sociaux une sorte de politisation du machisme. En fait, le machisme devient une sorte de courant politique qu'on appelle le masculinisme et qui amène très clairement, en particulier les jeunes hommes, à voter à l'extrême droite. Donc nous, on a très peur, évidemment, de ce qui peut arriver dans les prochains mois.
Toujours dans votre enquête, vous relevez cette tendance qu'il y a aujourd'hui à attribuer les aides sur des appels de projets, ce qui, selon vous, s'avérerait inefficace. Quel problème ?
Alors le problème, c'est qu'en fait, quand vous avez une permanence dans un lieu isolé pour accueillir les femmes victimes de violences, et qu'on vous demande chaque année de déposer un nouveau projet, il faut qu'il soit innovant, il faut qu'il soit différent, alors que concrètement, ce que vous faites, c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est des femmes victimes de toujours le même genre de violence, et vous leur apportez un conseil, un soutien juridique, psychologique, vous pouvez pas tous les ans trouver des nouveautés à défendre, et puis ça veut dire que vous allez passer beaucoup de temps à faire des dossiers, à vous battre pour 2000, 3000 euros, et en fait, ce temps-là, c'est du gâchis immense, parce que c'est un temps que ces associations passent à répondre à des dossiers, alors qu'elles devraient le passer à répondre aux femmes.
C'est bien noté. Merci Anne-Cécile Maillefer, donc présidente de la Fondation des Femmes, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Surnommé Monsieur Z, il devait être inhumé à Orléans.
Oui, de son vrai nom, Protais Ziguerran Yerazo, décédé le 3 août dernier au Niger et dont le corps a été rapatrié dans la métropole du centre Val-de-Loire, où une partie de sa famille devait être enterrée demain au grand cimetière de la ville, du moins jusqu'à ce que le maire décide de prendre un arrêté contraire. Mathilde Cariou, bonjour.
Bonjour.
Serge Grouard, qui avait d'abord donné son accord, a finalement décidé hier de faire marche arrière. Il évoque à présent un risque de trouble à l'ordre public. Et pourquoi ? Parce que l'homme, acquitté en 2009 par le Tribunal pénal international pour le Rwanda pour vice de procédure, est en réalité une figure du génocide des Tutsis.
Oui, d'abord, c'est le frère d'Agata Byarimana, la veuve du président rwandais assassiné le 6 avril 1994. Il était par ailleurs préfet dans le nord-ouest du Rwanda. Et il se trouve que c'est là-bas que l'on gardait les prisonniers de l'ancien gouvernement, renversé en 73. Ils étaient enfermés juste à côté de la préfecture, donc de son bureau. Ils sont morts de faim les uns après les autres. Une autre affaire connue où l'on retrouve Monsieur Z, c'est l'assassinat de Diane Fossé, la spécialiste des gorilles en 85. Il est cité parmi les commanditaires car la naturaliste dénonçait sa politique de braconnage. Bref, Monsieur Z, c'est un personnage qui a du pouvoir, qui fait partie de ce qu'on appelle l'Akazu, le cercle proche du président Habyarimana. Et dans les années 90, c'est là que s'organise le génocide. Il est notamment accusé d'avoir fondé le réseau Zéro, le groupe d'influence clandestin qui a fait monter les milices Interahamwe. Et il a également dressé la liste des personnes à tuer au premier jour du génocide. Tout ça rend incompréhensible le fait d'inhumer Monsieur Z à Orléans, a réagi le maire Serge Croire, qui a donc interdit les obsèques. Décision saluée par le CPCR, le collectif des partis civils pour le Rwanda, qui souligne que les génocidaires réfugiés sont encore présents en France, qu'ils ont encore des soutiens et qu'il ne faudrait pas, je cite, que cette tombe devienne un lieu de pèlerinage. On estime qu'environ 400 personnes de l'entourage de Monsieur Z auraient pu assister aux obsèques.
Merci Mathilde Cariou.
Midi passé de 43 minutes, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Deux semaines après le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, l'accélération subite vers de possibles négociations de paix semble déjà marquer le pas et ce faisant, eh bien, toutes les occasions sont bonnes à prendre pour continuer à faire face aux menaces comme aux ingérences de la Russie. Et c'est ainsi que le Premier ministre polonais, le chancelier allemand et le président français, que la crise politique intérieure n'a pas découragé de faire feu de tout bois, ont prévu de se rendre cet après-midi en Moldavie, un déplacement à Troyes donc pour une démonstration de force symbolique à l'occasion du 34e anniversaire de l'indépendance moldave et surtout à la veille du début sur place de la campagne officielle pour des élections législatives, troublée par les velléités à peine masquées de Moscou de faire basculer dans son camp cet État candidat à l'entrée dans l'Union européenne et par ailleurs frontalier et solidaire de l'Ukraine.
La menace russe qui décidément fait trembler partout en Europe.
Oui, c'est le cas également en Allemagne où un conseil des ministres exceptionnel doit avoir lieu aujourd'hui sur le thème de la sécurité nationale. Il se tiendra pour l'occasion au ministère de la Défense et le gouvernement Nathalie Vercieux compte notamment y présenter un projet de loi qui prévoit un retour partiel à un service militaire sur la base du volontariat.
Doté l'Allemagne de la plus grosse armée conventionnelle d'Europe, l'État de la Bundeswehr est loin de répondre à l'ambition de Friedrich Merz. 180 000 hommes aujourd'hui contre 500 000 du temps de la guerre froide pour la seule Allemagne de l'Ouest. Les effectifs ont fondu depuis qu'Angela Merkel a décidé l'abandon de la conscription. Face à la menace russe, Berlin veut aujourd'hui y revenir, mais sur la base du volontariat. L'objectif, 260 000 hommes sous les drapeaux et 200 000 réservistes. Tous les jeunes de plus de 18 ans recevront donc un questionnaire sur leur état de santé, leurs compétences et leur intérêt pour l'armée. Réponse obligatoire pour les hommes, facultative pour les femmes. Les meilleurs profils seront conviés à un entretien. Cela suffira-t-il? Les conservateurs en doutent, plaident pour le service militaire obligatoire, rejeté par les sociaux-démocrates.
On sait combien pour Donald Trump, ex-star de la télé-réalité, la politique est comme un spectacle permanent. Hier, le locataire de la Maison-Blanche a battu son record de la plus longue intervention en direct à la télé avec un conseil des ministres qui, pendant plus de 3 heures, a vanté, je cite, « le plus grand président de l'histoire américaine. Votre réussite change la donne dans le monde », a notamment conclu Steve Witkoff, son émissaire spécial, qui a également annoncé que Donald Trump présidera aujourd'hui même une grande, forcément, réunion à la Maison-Blanche sur l'après-guerre à Gaza. Alors que peut-on en attendre? Élément de réponse avec notre correspondante à Washington, Sandrine Etouandeg.
C'est sur la chaîne Fox News que Steve Witkoff a annoncé hier cette réunion sous la direction de Donald Trump sur l'avenir du territoire palestinien dévasté par la guerre depuis près de 2 ans.
Nous élaborons un plan très complet sur le jour d'après et je pense que beaucoup de gens vont constater à quel point c'est solide et guidé par de bonnes intentions. Ce plan reflète les motivations humanitaires du président Trump.
L'envoyé spécial n'a donné aucune précision sur les participants à cette réunion. Il ajoute dans cette interview que selon lui, c'est le Hamas qui retarde la fin de la guerre, qu'il y a eu un accord sur la table il y a un mois et demi qui aurait permis la libération de 10 otages, mais que le Hamas a ralenti le processus. À la question « Pensez-vous que le Hamas doit être complètement détruit ?» comme le dit Benjamin Netanyahou, Steve Witkoff répond « Ce n'est pas mon avis, je pense qu'il faut un accord qui prévoit la libération des otages avec en contrepartie des prisonniers palestiniens qui pourraient aussi rentrer chez eux. » La libération des otages est un préalable pour le gouvernement israélien et pour le président américain, insiste Steve Witkoff. Il se dit optimiste sur l'avancée des négociations entre les deux parties et déclare « Je pense que nous mettrons fin à la guerre à Gaza avant la fin de l'année ».
C'est une missive aussi inhabituelle que tranchante dans une lettre de 6 pages rendue publique hier. Emmanuel Macron a répondu aux récentes accusations de Benjamin Netanyahou selon lesquelles la reconnaissance par la France de l'État palestinien allait alimenter le feu de l'antisémitisme. Le président français y dénonce l'instrumentalisation de l'antisémitisme par le premier ministre israélien qu'il appelle à sortir de la fuite en avant meurtrière et illégale d'une guerre permanente à Gaza. Fin de citation. C'est un nouvel espoir dans la prévention du VIH. Hier, la Commission européenne a donné son feu vert à la commercialisation dans l'UE d'un traitement innovant, le Yeytuo. Savannah Ruelan, bonjour.
Oui, ce traitement préventif du VIH est donc à destination des porteurs du virus et non des malades du sida. Pour Florence Thune, directrice de SIDAction, ce nouveau traitement est d'ordre à révolutionner le quotidien des porteurs du VIH. En effet, il se compose de 2 injections annuelles. Il est donc moins contraignant que la PrEP, le traitement préventif déjà existant, fait de comprimés à prendre tous les jours.
Pour des personnes qui souhaitent avoir un moyen de prévention qui soit aussi discret que possible, et bien avoir des médicaments chez soi à prendre tous les jours, ce n'est pas forcément le plus discret possible. Et ça veut dire aussi aller chez le médecin régulièrement, faire renouveler les ordonnances. Or là, effectivement, avoir une injection qui permet d'être entre guillemets tranquille pendant 6 mois, c'est non seulement une révolution au niveau individuel, et puis c'est une révolution au niveau aussi d'un contrôle de l'épidémie au niveau mondial.
D'après les essais cliniques menés par le laboratoire, ce traitement peut réduire le risque de transmission du VIH de plus de 99,9% chez les adultes et adolescents. Mais à 28 000 dollars par an, c'est loin d'être un traitement accessible. Et pour la directrice de SIDAction, il faudra du temps.
Il faut vraiment faire baisser les prix, faire en sorte qu'on puisse aussi avoir une version générique, hein, comme c'était le cas pour la PrEP aujourd'hui orale. Hein. C'est un long processus, parfois plusieurs années, pour faire en sorte que les traitements soient accessibles, à la fois pour des questions de prix, et puis après ensuite d'autorisation. On sait par expérience à quel point il va falloir batailler pour le rendre disponible et accessible.
On rappelle qu'on enregistre chaque année 25 000 nouveaux cas positifs au VIH en Europe.
Merci Savannah Ruelle. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Instable et même orageux sur les deux tiers du pays. 28 départements situés de la chaîne des Pyrénées jusqu'au Bas-Rhin ont été placés en vigilance orange. Seul un tiers nord-ouest restera à l'écart de ces turbulences. Quant aux températures, elles afficheront entre 19 et 31 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.